Hyper. France Inter en direct du festival Les Inrocks. Deux soirées de concerts exceptionnels.
Et mercredi soir à la Cigale à Paris avec Lamb Chop, Mermont, Dauteur et Tindersticks.
France Inter en direct du festival Les Inrocks. Ce soir et mercredi à partir de 20h. France Inter.
La voix est libre.
Pour l'heure 15h04 et c'est Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Salut Daniel et bonjour les AMG, je voulais juste dire que j'étais pour le mariage des homosexuels. Voilà, je suis catholique pratiquant et je suis pour. Et toutes ces polémiques, ces contestations, eh bien, je trouve ça absurde et infondé. Voilà. On a de quel droit on pourrait interdire le mariage des homosexuels?
Bonjour Daniel Mermet, Thierry de Bordeaux. Je te téléphone car on a pu voir ce week-end à la radio, mais aussi entendre à la radio et voir à la télévision, que les évêques de France se mobilisaient contre le mariage homosexuel. Mais pourquoi sont-ils restés muets quand il y a eu toutes ces histoires de pédophilie dans le monde de l'Église? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Donc pourquoi ils ne les ont pas jugés à ce moment-là? Et pourquoi ils ne se prononcent toujours pas pour le mariage des prêtres? Alors c'est marrant qu'ils brandissent les drapeaux et qu'ils haussent la voix quand on parle du mariage homosexuel, mais il serait bien aussi qu'ils parlent de la pédophilie qui a eu lieu au sein de l'Église et qui reste cependant tabou.
Oui, bonjour. Alors voilà les nouveaux mots que nous entendons à la télé, sur toutes les télés, enfin toutes, et toutes les radios, à part à 15h, immersion en choc de compétitivité. Voilà, quand ils ont dit ça, ils ont tout dit, d'ailleurs ils ne peuvent pas dire autre chose, ils ne savent pas autre chose. Vivement 15h, que l'on écoute Mermet.
Oui, bonjour, c'est Claude là, de Notre-Dame. Là, je suis dans un champ avec des camarades, on est entouré de gardes mobiles. Une maison s'est libérée ce matin, on a essayé de la reprendre, donc il y a des gars qui sont sous le toit, et puis, encore une fois de plus, ils se sont déplacés en force pour nous virer de chez nous. C'était juste pour informer les gens de ce qui se passe ici à Notre-Dame.
Bonjour, c'est Jean-Louis de Bayonne. Vendredi, le ministre Valls a livré aux autorités espagnoles Aurore Martin, militante basque. Les Espagnols lui reprochent d'avoir participé à des réunions publiques en tant que représentante d'une organisation terroriste. Cette organisation est en fait un parti politique qui se nomme Batachuna et qui est autorisé en France. Elle risque pour cela 12 ans de prison. Monsieur Valls a sûrement agi ainsi pour plaire au gouvernement du Parti populaire, la droite espagnole, mais il met en danger la paix au Pays basque. Ici, tout le monde espère qu'avec la trêve de l'ETA et les négociations avec le gouvernement espagnol, la violence cessera. Mais en agissant ainsi, le gouvernement français et espagnol, qui ne font rien pour que la paix s'installe, risque de permettre à quelques allumés de relancer des attentats. Souvenez-vous, il y a quelques mois, ici à Bayonne, nous avons reçu comme il se devait M. Sarkozy. M. Valls, nous vous attendons.
Et vous n'allez pas me croire, là. J'ai entre les mains la rousse de 2010, là. Et j'ai eu la curiosité d'aller voir un Morales. Eh bien, il n'y est pas. Evo Morales. Il y a deux Morales, un peintre et un musicien espagnol du XVIe siècle. Il n'y a pas Evo Morales. Alors je me suis dit, tiens, je vais... Bon, il y a quand même Hugo Chavez. Il y a Hugo Chavez, il y a trois petites lignes. Bon. Je suis allé voir Rafael Correa. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Par contre, alors, j'ai dit, voyons, comparons. Alors Barroso, il y est. Barroso, le président de la Commission européenne, lui dit, Merkel, elle a une photo, Angela Merkel. Et alors j'ai dit, voyons, un mec qui est plus au pouvoir et qui n'a pas eu, qui n'a pas joué un rôle considérable dans l'histoire de son pays, mettons Aznar. Mais Aznar, il y est. Il a été président du gouvernement de 1996 à 2004. Vous voyez? Alors il y a donc José María Aznar, Lopez, et il n'y a pas Evo Morales. Si c'est pas un choix idéologique, ça, qu'est-ce que c'est?
Merci, jamais les oreilles loin du front. Tels sont les AMG, les auditeurs modestes et géniaux, et les auditrices modestes et géniales. Aujourd'hui, on continue. Aux États-Unis, l'Amérique qui flippe ou l'Amérique qui floppe. L'échéance approche, ça ne vous a pas échappé. Quelle marionnette va l'emporter ? Coca ou cola ? Certes, entre les deux, il y a des différences. Certes, il y a pire et pire que pire. Mais il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça que les choses nous sont présentées. Il n'y a pas d'autre choix. Vous avez qu'à écouter les analyses, les commentaires, qui évoquent quelque part d'autres alternatives que le candidat Coca et le candidat Cola. Non seulement la démocratie américaine est corrompue par la plutocratie, on l'a vu tout au cours de ces reportages, par la plutocratie et par les lobbies, mais elle est enfermée dans un débat du style blanc-bonnet et bonnet-blanc. Ce qui n'est pas du tout l'avis majoritaire des Français qui, selon les sondages, voteraient à 88%, si j'ai bien compris, pour Obama. On le disait, Barack Obama n'a pas du tout usé son capital de séduction chez nous. Pourtant, dans son histoire, l'Amérique a connu d'autres voies. C'est ce que va nous raconter, c'est ce que va évoquer notre premier invité, qui s'appelle Eli, ça s'écrit Zaretsky, Eli Zaretsky, qui est un historien fameux aux États-Unis et qui vient de publier un bouquin aux éditions du Seuil, qui s'appelle Left, c'est-à-dire gauche. Et il nous expliquera comment depuis deux siècles, il existe bel et bien une gauche, une vraie gauche aux États-Unis, une gauche égalitaire, une gauche féministe, une gauche qui s'est fait remarquer, qui a joué un rôle important dans le combat abolitionniste, dans les luttes du début du XXe siècle, lors du New Deal, dans les luttes des années 60. Et c'est intéressant quand même de refaire cette perspective, donc d'abord avec Eli Zaretsky. Et puis un deuxième invité, dont j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le nom, c'est Chris Hedges, qui est un journaliste, un grand reporter au New York Times, et qui vient de publier un bouquin, La mort de l'élite progressiste, aux éditions Luxe. Voilà nos deux invités, histoire d'agrandir un peu le cadre à ces deux candidats. On s'en doutait, mais c'est pas mal de l'entendre, et c'est ce que je vous propose d'ici à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut là-bas, salut les AMG. Le prochain repère de Poitiers aura lieu le mercredi 7 novembre. On y parlera de l'invasion publicitaire et de la désobéissance civile avec le collectif des déboulonneurs de Poitiers. Rendez-vous donc mercredi à 20h30 au bar Le Plan B, près de la gare, en espérant vous voir nombreux.
Oui, salut là-bas, c'est Saïd du Lot. C'est deux questions pour Emmanuel Valls. La première, je voudrais savoir si tu t'es posé la question, Emmanuel, de savoir où vont les gens que tu expulses, les enfants, les femmes, les hommes. La deuxième question, c'est normalement on est en période hivernale et les expulsions sont interdites. Donc comment ça se fait que toi, tu peux le faire ?
I'm Barack Obama, and I approve this message. And I approve this message.
More excitement. More everything.
President, give them the president.
Our country is burning.
Notre pays est en flammes.
The left that came out of the 1960s has been very strong for meritocracy.
La gauche qui est sortie des années 60 70 était en faveur de la méritocratie.
So that means no discrimination against women, against homosexuals, against blacks.
Pas de discrimination contre les femmes, les noirs, les homosexuels.
But the question of social equality has been completely forgotten, and I blame the left.
Mais la question de l'égalité sociale a été complètement mise de côté.
C'est ça.
Et c'est la faute de la gauche.
I blame the left.
Et je l'accuse de ça.
One day longer.
Corporate power commodifies everything. Human beings become commodities,
and the natural world becomes a commodity.
C'est-à-dire que le pouvoir des entreprises, corporate power, transforme tout en marchandise.
And you exploit those commodities until exhaustion or collapse.
Et on les exploite toutes jusqu'à l'épuisement ou l'effondrement.
The problem is that this time the whole planet goes down with us.
Mais le problème, c'est que cette fois-ci, c'est que c'est toute la planète qui sera entraînée avec notre chute.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec qui vend-il l'Amérique qui flippe ou l'Amérique qui floppe.
Flight number 2, arriving from...
Eh ouais, c'était il y a 4 ans. Yes, we can. C'est devenu, we try. Et encore, en 4 ans. C'est peu de dire que Barack Obama a déçu, que à peu près aucun des projets, aucune des promesses n'a été tenue, quelques-unes. Il en va de sa responsabilité probablement, et il en va sans doute aussi de la puissance de l'adversité qui s'est opposée à lui. Sera-t-il, oui ou non, réélu ? En tout cas, en aucun cas, ce sera le triomphe extraordinaire qu'il avait eu il y a 4 ans, en 2008. Quelle arme avait Obama pour lutter, pour remettre la politique au-dessus de la dictature de la finance? Parce que c'était ça il y a 4 ans. Ce qu'on avait compris, ce que tout le monde avait compris, et ce que les Américains vivaient à travers les expulsions des maisons, à travers le chômage galopant, à travers la destruction de leurs retraites, à travers cet effondrement, c'était évidemment la faillite totale du système libéral. Et contre cela, pour essayer de réagir, de tenir les promesses, ce pouvoir, où était-il ? Eh bien, évidemment, il était dans l'État capable, le seul moyen dont il disposait, c'était que l'État intervienne. Or, cet État était dans un drôle d'État, deux guerres terribles et extraordinairement coûteuses en hommes de chaque côté, mais aussi des sommes astronomiques englouties par l'État dans ces guerres. Il y avait la corruption partout présente, les inégalités au niveau des impôts. Mille raisons de considérer pour ces Américains qui vivaient un tel désarroi que, l'État n'était pas le garant ni le moyen de remettre de l'ordre dans ce pays et de remettre l'Amérique sur les rails. Et cette faiblesse relative, mais tout de même éclatante, de l'État a sans doute été l'une des raisons de l'impuissance de Barack Obama et l'une des raisons de ce phénomène qui évidemment nous laisse pantois de voir des Américains aujourd'hui et l'Amérique populaire, l'Amérique profonde, une partie de cette Amérique profonde au moins, se tourner vers celui qui est le symbole de ce qui a plongé l'Amérique dans un tel désastre, un tel désarroi, c'est-à-dire Mitt Romney, le symbole même de cette finance toute puissante. C'était une histoire, ça restera bien évidemment une histoire de l'État finalement. Et c'est ce qui va se jouer dans ces élections, mais qui se jouera aussi après. Et on ne voit pas au-delà des élections de grands motifs d'espoir ni d'amélioration dans l'immédiat. L'une des... Ce que nous avons compris au cours de ces reportages, qu'on aurait pu comprendre avant, c'est l'étroitesse aussi du débat entre ce parti démocrate et ce parti républicain, comme s'il n'y avait rien d'autre, comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités, d'autres propositions, d'autres positionnements politiques, d'autres regards sur les réalités sociales, économiques, politiques des États-Unis. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ai indiqué les deux invités que nous allons écouter, rencontrer, à commencer par Eli Zaretsky, l'auteur de Left. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça veut dire la gauche. Et j'ai voulu qu'il nous parle tout de suite de son point de vue sur la gauche aux États-Unis, mais dans une perspective historique. Eli Zaretsky.
Their wealth. Ils sont riches our poverty. Parce que nous sommes pauvres. Their wealth. Ils sont riches our poverty. Parce que nous sommes pauvres.
We got Americans with families can't even buy meals.
Demande à ton pote dont la boîte a été restructurée s'il a touché le pactole. Mais ce n'est pas une question de classe. Le thème des classes sociales ne fait pas vraiment partie des discussions de tous les jours dans la vie politique américaine. À l'ombre de la bombe atomique, tout est cassé, rien ne fonctionne. Pourtant, toute cette merde, j'ai bien dû la payer. Une meilleure vie que ça a bien existé. Ah, le bonheur américain, mais c'est pas vraiment le pied. Et j'y vois pas clair, comme tous les copains qui se font défoncer la gueule. Tu travailles si tard qu'à la fin tu t'écroules. Et tu gagnes quoi? Une, deux pièces? Pas vraiment le bon deal. Mais je travaille toute ma vie pour finir le mois. Mais je travaille toute ma vie pour leur payer le foie gras. Il faut bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Que ce soit moi ou le type en bas de la rue, un gamin de Tijuana ou une maman au Ghana, il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. La société est divisée en classes. Il y a des gens qui travaillent très très dur et qui gagnent très très peu. Et il y a des gens qui ne travaillent pas trop dur. Et quand ils travaillent, ce n'est finalement que des ennuis pour nous autres. Ce qu'ils produisent, c'est dangereux.
Quand on est aux États-Unis et qu'on dit qu'on est français, ce qui apparaît assez vite, il y a des regards un peu bizarres. Ou bien alors on vous sourit en vous disant « bon, ben c'est pas trop grave ». C'est-à-dire, vous venez d'un pays socialiste, mais bon, on vous accepte quand même. Je parle d'une Amérique profonde quand même. C'est dire si le socialisme aux États-Unis est un mot qui n'est plus utilisé, semble-t-il. Hein. Il y a les démocrates et les républicains qui s'affrontent. Et pour nous, ça nous est présenté comme, eh bien, il y a la gauche, hein, voilà, les démocrates, et puis la droite, les républicains. Et puis c'est tout. Ouais. Alors on sait que vous avez quelques énergumènes formidables, des Chomsky et des grands penseurs comme ça, mais ça a l'air d'être des exceptions. En tous les cas, on est très content de vous recevoir parce que Eli Zaretsky, vous sortez un livre en français au seuil qui s'appelle « Left », c'est-à-dire la gauche, et c'est sur l'autre gauche aux États-Unis. Et en fait, dans ce bouquin, vous faites une histoire du socialisme aux États-Unis. Vous dites, attendez, il y a une histoire, nous avons une histoire. Et vous prenez trois grands moments.
Oui.
Vous prenez la période abolitionniste,
oui,
à la fin du 19e siècle. Vous prenez la période du New Deal de Roosevelt, 33-41, et puis vous prenez aussi les années 50-60, les années d'effervescence, des droits civiques, etc. Et là, vous prenez trois moments où vous dites, attendez, les socialistes américains, le socialisme aux États-Unis a eu un rôle majeur, très important.
Oui. But not exactly the socialists.
C'est pas exactement les socialistes.
But the left.
Mais la gauche.
If you look at American history, you might say the left is not so powerful, not so important.
Parce que si on regarde l'histoire américaine, on a l'impression que la gauche n'est pas si importante, n'a pas tellement de poids.
Its importance shows itself in moments that are turning points.
Mais son importance apparaît à ces moments où l'histoire bascule.
Moments when the nation has to really make a decision about going in a new direction. For example, in the moment of the abolition of slavery.
C'est les moments où la nation doit choisir de changer de direction ou pas. Et un exemple, c'est celle de l'abolition de l'esclavage.
Oui. Mm-hmm. And also the moment of the New Deal.
Et aussi l'époque du New Deal.
And again, what I believe is that we are at such a moment.
Et je pense qu'on est en ce moment à un de ces moments-là.
We have been at such a moment for a long time. These are not moments like an economic crisis that maybe lasts 5 years. These are moments that take long periods of time when you realize that the country has to change.
C'est des moments où l'histoire change. Et c'est pas comme une crise économique qui durerait que 5 ans, mais c'est des moments qui, une fois qu'ils sont passés, on s'aperçoit que c'est à ce moment-là que l'histoire a changé.
Eli, je voudrais que vous donniez une définition plus précise. Quand vous dites la gauche et le socialisme aux États-Unis, c'est quoi?
Okay. The left in the United States starts as an argument with liberalism. The prior, before you have a left, the foundation of the country, the foundation of our tradition, and I think my idea of the left is relevant beyond the United States, but my idea begins with liberalism.
La gauche, elle débute, c'est ce moment où elle apparaît, justement face à ce qu'on appelle le libéralisme.
Or freedom, really.
Ou les questions, en tout cas, des libertés essentielles. Et cette définition de la gauche, l'apparition de cette idée-là, passe par rapport à ces questions-là. Elle s'applique aux États-Unis, mais je pense aussi que ça s'applique partout dans le monde.
Right. So the left begins by questioning the idea of freedom in itself.
C'est vraiment interroger la question de la liberté en soi.
It's a deep conception of equality, deep enough to rethink the question of freedom that defines the left.
Une définition, une réflexion profonde sur l'égalité qui permet de repenser une autre question essentielle qui définit la gauche, qui est celle de la liberté.
Even in France, the left begins before, with the Jacobins.
Même en France, la gauche commence au XVIIIe siècle avec les Jacobins, c'est là qu'elle commence.
Before the question of socialism.
Avant même, donc, la question du socialisme.
In the United States, the question of the left begins with slavery.
Et aux États-Unis, la question de la gauche commence avec l'esclavage.
Okay. Because in the United States, the whole country is based on slavery.
Parce que tout le pays des États-Unis est basé sur l'esclavage.
And the political system is based on keeping the question of slavery outside of politics.
Et le système politique s'évertuait à maintenir la question de l'esclavage en dehors justement de la sphère politique.
So the reason we needed a left, because in English my book is called Why America Needs a Left, was to push that question into politics.
Et la raison pour laquelle on avait besoin d'une gauche, et c'est d'ailleurs la traduction de ce livre en anglais, c'est pourquoi l'Amérique a besoin d'une gauche, c'était d'amener cette question-là sur le débat politique.
And it was not really just the question of abolishing slavery, because many people wanted to abolish slavery.
C'était pas simplement une question d'abolir l'esclavage, parce que beaucoup de gens étaient pour cette idée.
But for the left, it was racial equality.
Mais pour la gauche, c'était l'égalité raciale.
That black people and white people would go to school, the children would go to school together, would be in the churches together, and would marry.
Que les enfants noirs et blancs puissent aller à l'école ensemble, puissent aller à l'église ensemble, et qu'ils puissent se marier.
John Henry died on the mountain. Oh, John Henry died on the mountain. He was a whooping steel, a whooping steel. old partner. He was a whooping steer. I ain't gonna tell nobody my right name. I ain't gonna tell nobody my right name. No, I was flying. I run across Blue Ridge Mountain. I run across that Blue Ridge Mountain. And when the sun went down, when the sun went down, oh, Captain, when the sun went down.
Eli, ce qui se passe, c'est que dans la perception que nous avons aujourd'hui communément dans la doxa française vis-à-vis des États-Unis, on dit, ah, nous, les Français, on a une tradition de guerre civile, on a une tradition de lutte de classe, etc. Mais ça, non, aux États-Unis, c'est pas du tout, il n'y a pas de lutte de classe aux États-Unis. On ignore qu'il y a eu dans votre pays, au 19e siècle et tout au long du 20e siècle, des luttes sociales acharnées, extrêmement violentes parfois, et qui ont complètement modifié l'histoire de ce pays, qui ont fait l'histoire de ce pays.
Yes. The United States has the most violent history of workers' struggles in the world.
Les États-Unis ont l'histoire la plus violente de lutte sociale des ouvriers à travers le monde.
The most strikes, the most violent strikes, the most continuous struggle.
Le plus de grèves les plus violentes et les grèves les plus longues.
The Democratic Party in 1936, when Roosevelt was re-elected, he made it the party of the working class. It was a social democratic party.
Le Parti démocrate, quand Roosevelt a été réélu en 36, il en avait fait le parti de la classe ouvrière. C'était vraiment.
He asked the party officials to put out propaganda against the rich. He said, "We're not running against the Republicans. We're running against the rich."
Il avait demandé à ce qu'on fasse des affiches contre les riches. On dit, on n'est pas en train de se battre contre les républicains. On se bat contre les riches.
Roosevelt said, "We need a left. You have to push me." He needed a left.
On a besoin d'une gauche, vous devez me pousser.
And Roosevelt also, he said, you can't just pass laws. You need a movement that keeps making those laws real. This is a problem.
Il a dit aussi qu'il suffisait pas de faire des lois, mais qu'il fallait un mouvement qui continue à garder ces lois vivantes, efficaces.
Yeah. And the New Deal did not end in 1941. It lasted until the late 1940s. It really ends with the Cold War.
Et le New Deal n'a pas fini avec 41 et le début de la guerre. Il s'est fini à la fin des années 40 avec la guerre froide.
Cette affiche dans Harlem appelle les Noirs à se mesurer aux Blancs.
ORTF.
Cet appel à peine dissimulé à la violence.
Octobre 1963.
C'est la fameuse inquiétante organisation des Black Moslems, les musulmans noirs, qui le lance. Les Black Moslems ont un chef, vous voyez ici de dos, Monsieur Muhammad, mais c'est leur chef spirituel. Car leur véritable chef, fanatique et décidé, c'est l'homme qui se fait appeler Malcolm X.
You don't get freedom peacefully.
La liberté ne s'obtient pas pacifiquement. Quiconque prive d'autres de leur liberté ne mérite pas que ceux qui l'oppriment l'approchent pacifiquement. Lorsque le noir dans ce pays parvient à se libérer du carcan mental dans lequel l'ont placé nos pasteurs, il s'aperçoit alors que la seule façon d'obtenir sa liberté est celle que nos blancs ont employée contre les Anglais. Il faut être prêt à payer le prix de la liberté. Nos Noirs n'ont jamais été prêts à se battre que pour la liberté des Blancs, pour que les Blancs soient libres de nous envoyer des chiens policiers, de nous taper sur le crâne et d'employer des lances à incendie contre des femmes et des enfants. Pour avoir la paix, un moyen. Éliminer ces injustices. Mais le blanc ne le fera pas. Il nous enverra de l'eau bénite et continuera ses méfaits.
Parlez-nous aussi de ces années, des années 50-60, qui ont été les grandes années américaines, avec tous ces combats pour les droits civiques, pour les droits des Noirs, pour les droits des femmes, pour les droits des homosexuels, toute cette ferveur extraordinaire des années 50-60. À cette époque-là, quel a été le rôle, encore une fois, de la gauche ?
I think it's very important in understanding the 1960s to make a distinction between the Cultural Revolution, which was very, very broad, and the left, the new left of the 1960s.
Pour ce qui est des années 60, il faut vraiment, je pense, faire une distinction entre, d'un côté, la révolution culturelle, qui était très large, et la gauche telle quelle qui s'est reconstruite, ce qu'on appelait la new left, la nouvelle gauche.
I mean, the Cultural Revolution would include the Beatles, and the changes in clothing, the sexual revolution.
La révolution culturelle, ça allait des Beatles aux drogues, aux changements de vêtements aussi.
All of which was wonderful.
Tout ça étant très bien, entre autres.
But the left of the 1960s were the people who were pointing out what the political meaning of this change that the country and the world was going through in the 1960s.
Mais la gauche politique des années 60, c'est celle qui se posait la question, quelle est la signification politique de tous ces changements que l'Amérique et le monde est en train de vivre?
For example, the corruption of the Democratic Party, which did not allow the black people from the Deep South to come into the political conventions.
Par exemple, la corruption du Parti démocrate qui n'autorisait pas les Noirs du Sud des États-Unis à venir participer aux conventions.
The connection between American racism and the war in Vietnam.
Le rapport qu'il y avait entre le racisme américain et la guerre au Vietnam.
The way that the university functioned to keep critical thought away. It's the new left that created really the critical thinking in history, in philosophy, in the social sciences. That is the product of the new left.
Et aussi la manière dont fondamentalement l'université rejetait toute pensée critique. Et c'est la nouvelle gauche qui a refondé la manière dont on faisait l'histoire, la philosophie, les sciences sociales.
It wasn't only the great social changes that Lyndon Johnson brought in terms of civil rights, but also Medicare and the
Les changements sociaux qui avaient été apportés par Lyndon, non seulement les droits civiques, mais aussi la couverture médicale, la couverture santé.
It was the understanding that these new institutions needed participation from below.
Et c'était aussi la compréhension que ces nouvelles institutions avaient besoin de la participation de la base.
Which was part of Lyndon Johnson's politics. I mean, it was really fantastic. Lyndon Johnson said, "We don't stand for equality of possibility. We stand for equality of results."
Mm. Et Lyndon Johnson mettait vraiment là-dessus, c'était formidable, c'est de manière participative qu'il utilisait, dire qu'on n'est pas simplement pour l'égalité des possibilités, mais l'égalité dans les résultats.
And then he, launched the war in Vietnam, which was a tragic turning point in our history.
Et c'est là où il a lancé la guerre au Vietnam, qui a été un tournant tragique dans notre histoire.
Les États-Unis ont perdu la guerre en 1975, et la gauche aussi a perdu au début des années 70. La gauche a commencé à perdre du terrain, a commencé à décliner jusqu'à l'arrivée de Reagan en 1980.
Right. That's true. It's
oui, c'est vrai.
The most important question was were the workers and which way the workers would go, because the workers were very caught up in the Cultural Revolution and they were many of them were opposed to the war.
Et la question essentielle, c'était autour des travailleurs. De quel côté vont-ils pencher? Parce que beaucoup des travailleurs étaient acquis à la révolution sociale, à la révolution sexuelle par exemple, et à la révolution culturelle, et beaucoup d'entre eux étaient aussi contre la guerre.
It's also important, I think, to understand in France, you have a continuous left associated with the Social Democratic Party and Communist Party when that was important and so forth.
Mais c'est intéressant de voir parce qu'en France, on a l'idée d'une continuité de la gauche qui part avec les social-démocrates, les communistes et ainsi de suite.
In the United States, the periods in which the left is powerful and important are very rare and infrequent.
Aux États-Unis, les moments où la gauche est au pouvoir sont très rares et très irrégulières.
Maybe 30 or 40 years out of the 250.
C'est pas plus de 30 ou 40 ans en 250 ans d'histoire.
Mmh. Ce qu'on a vu en France dans les années 70, c'est la gauche intellectuelle, la petite bourgeoisie de gauche
qui soutenait les luttes ouvrières, abandonné complètement. Et votre compatriote, Chris Hedges, publie un livre très critique contre la gauche progressiste qui a abandonné complètement la classe populaire aux États-Unis.
I make a distinction between meritocracy and equality.
Oui, parce que je fais une différence entre la méritocratie et l'égalité.
And the left that came out of the 1960s has been very strong for meritocracy.
La gauche qui est sortie des années 60-70 était en faveur de la méritocratie.
So that means no discrimination against women, against homosexuals, against blacks.
Pas de discrimination contre les femmes, les noirs, les homosexuels.
But the question of social equality has been completely forgotten, and I blame the left.
Mais la question de l'égalité sociale a été complètement mise de côté.
C'est ça.
Et c'est la faute de la gauche.
I blame the left.
Et je l'accuse de ça.
I mean, it's really very striking that there's been so little response from the left to the current economic crisis.
C'est même saisissant de voir à quel point il y a eu peu de réponses de la gauche à la crise économique actuelle.
It's not as if we didn't learn how much can be done by government in the 1930s and 40s and 50s and 60s.
C'est pas comme si on n'avait pas appris ce que le gouvernement pouvait faire quand il était aux commandes tout au long des années 30, 40, 50, 60.
For example, the New Deal, it was really not so much the working class, was the idea of the American people as a whole, including the working class, including the immigrants. That was really the powerful idea.
Par exemple, le New Deal, c'était pas simplement quelque chose qui touchait les ouvriers, mais c'était aussi l'idée d'appréhender tout le peuple américain dans sa totalité, les travailleurs, les migrants, tous.
And that's why the idea of equality has been so important.
C'est pour ça que la question de l'égalité a été si importante pour cette idée-là, précisément.
It's part of why I wrote the book.
C'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit ce livre.
A left is it's a long-term project. The left will always fail.
En fait, c'est que c'est toujours un projet à long terme et qu'au bout du compte, la gauche perd toujours.
Because it's looking to the future. It's never going to really realize itself.
Parce que la gauche, c'est regarder vers le futur et c'est donc le futur ne va jamais se réaliser tel qu'on l'a prévu.
Class war.
The song I would like to dedicate.
J'aimerais dédier cette chanson à la classe ouvrière, la classe rebelle. C'est une guerre de classe, elle a lieu tous les jours. Les salariés se font tous arnaquer. Les décisions qui nous concernent, on peut rien en dire. C'est une guerre de classe. Maladie mentale, monétaire, décadence physique. C'est une question de proximité. C'est une question de liberté. C'est une question de pouvoir. De qui en a, de qui n'en a pas. C'est une question de guerre de classe. C'est une guerre de classe contre les travailleurs pauvres. C'est une guerre de classe contre les travailleurs pauvres. On sait tous pour qui on bosse, pour qui on se bat, pour qui on meurt. Comme ma grand-mère disait, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est une guerre de classe. Un hip-hop avec une conscience de classe. C'est les riches qui tiennent la boutique. On passe notre vie à leur remplir les poches.
It's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class.
C'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe.
Class war.
Voilà les élections américaines qui vont s'achever demain, enfin après-demain matin pour nous.
Elle nous donne l'occasion de se dire que peut-être il y a autre chose que ce qu'on nous présente là, soit à gauche, soit à droite, soit au-dessus, soit en dessous. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, après cette rencontre avec Eli Zaretsky, qui est l'auteur de Left, un essai sur l'autre gauche aux États-Unis, qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Voilà, Chris Hedges, Hedges, H-E-D-G-E-S. Notez bien le nom de cet écrivain qui publie aux éditions Luxe « La mort de l'élite progressiste ». Et c'est un livre que je vous recommande très, très chaleureusement. En deux mots, Chris Hedges est journaliste. Il a travaillé pendant une quinzaine d'années comme correspondant, notamment correspondant de guerre pour le New York Times. Il est prix Pulitzer, qui est un prix très prestigieux pour le journalisme aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est chroniqueur dans toute une série de journaux aux États-Unis et je crois aussi au Canada. Donc il publie ce livre, il a un regard, vous allez voir, acerbe et formidablement stimulant. Alors, la première question, c'est évidemment, on a évoqué souvent au cours de ces reportages, c'est la question du Tea Party. Comment est-ce que ces Américains paumés, perdus, cabossés à la suite de l'effondrement de 2008, peuvent-ils aujourd'hui se tourner vers cette plutocratie qui les a justement conduits à ce désastre? Première question donc à Chris Hedges.
There are powerful forces in the United States that are in essence proto-fascist.
Il y a des forces très puissantes aux États-Unis qui sont par essence proto-fascistes.
By this I mean that they channel a legitimate rage and sense of betrayal towards the typical victims of fascist movements.
Mais par ça, je veux dire qu'elle canalise une colère légitime et aussi un sentiment de trahison. Et ça, envers les victimes types des mouvements fascistes.
These are the vulnerable, the weak and the marginalized.
C'est les vulnérables, les faibles et les marginalisés.
Undocumented workers,
les travailleurs sans papiers, les musulmans,
homosexuals,
les homosexuels,
intellectuals,
les intellectuels,
feminists,
féministes,
liberals,
les gauchistes.
And they are funded by the most retrograde elements of American corporate capitalism, including the Koch brothers.
Et ce mouvement est financé par ce qu'il y a de pire dans le capitalisme américain, illustré par exemple par les Koch brothers, les frères Koch.
Oui. Now, we have a powerful ally to the Tea Party, and that is the Christian right.
Et il y a un allié très puissant du Tea Party, c'est la droite chrétienne.
Which for me is also in essence a proto-fascist organization.
Qui elle aussi est une organisation par essence proto-fasciste.
So that the longer the political paralysis in the United States continues.
Et tant que durera donc la paralysie politique qui existe aux États-Unis aujourd'hui,
the more inevitably these extremes become empowered.
Le plus inévitablement ces extrêmes auront du pouvoir.
That is why I invested so much time in the Occupy movement.
Et c'est pour ça que je me suis tellement engagé, j'ai tellement passé de temps aussi avec le mouvement Occupy Wall Street. Pour faire vraiment un contre-courant.
C'est ça. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qu'a été ou ce qu'est le mouvement Occupy?
The Occupy movement is a largely white middle-class movement.
C'est un mouvement majoritairement blanc de classe moyenne.
Driven by men and women who have for the most part a university education.
Mené par des hommes et des femmes qui pour la majorité d'entre eux ont des études universitaires.
And they walked out into the wider world and there was no place for them.
Et ils sont sortis de l'université pour aller dans le grand monde où il n'y avait plus aucune place pour eux.
It's important to remember that the liberal class in the United States turned its back on the working class.
Il ne faut pas perdre de vue que la gauche aux États-Unis a tourné le dos à la classe ouvrière.
Ce que vous appelez l'élite progressiste.
Oui. And this has created a schism between white middle-class liberals and people in marginal communities.
Et ça a créé un schisme entre la gauche ou les gauchistes blancs et ceux qui sont effectivement marginalisés.
The white liberal establishment busied itself with multiculturalism, inclusiveness, gender politics and identity politics.
Et l'establishment de gauche, lui, s'est gargarisé de multiculturalité, d'inter-échange, de la question du genre.
And they forgot about the primacy of justice.
Et ils ont oublié les prémices essentielles de la justice.
À quel moment ça s'est passé?
Starting with Reagan, but especially under Clinton.
Ça a commencé sous Reagan, mais ça s'est vraiment caractérisé sous Clinton.
Because Clinton carried out the worst assault against the working class.
Parce que c'est Clinton qui a mené le pire assaut contre la classe ouvrière.
He passed NAFTA.
Il a passé les lois NAFTA.
He destroyed the welfare system.
Il a démonté le système du welfare.
He deregulated the control of in the Federal Communications Commission. Turning the airwaves over to roughly a half dozen corporations.
Il a dérégulé l'équivalent américain du CSA et a du coup a donné les ondes pour la télévision à une douzaine de compagnies privées qui maintenant géraient la télévision.
And of course he ripped down the firewalls between commercial and investment banks, precipitating the national and the global meltdown.
Et bien sûr, il a fait sauter toutes les cloisons qui séparaient les banques de dépôt et les banques d'investissement, ce qui a rendu possible la catastrophe économique qui a suivi.
Ça dépend de celui qui a le plus gros portefeuille.
Chris, on est très frappé par le financement de la campagne. Notamment par les super PAC. Ce déluge d'argent sur les élections présidentielles, mais aussi sur les élections locales, nous fait vraiment penser que votre pays est tout sauf une démocratie.
Well, it's not a democracy.
Non, ce n'est pas une démocratie.
We've undergone a corporate coup d'état.
On a vraiment subi un coup d'état des entreprises.
And it's over. They've won.
Et c'est fini, ils ont gagné.
So the corporate state does not produce products that are different.
Et l'État entreprise ne produit pas des produits qui soient différents.
It produces brands that are different.
Il produit juste des marques différentes.
And brands cost a lot of money to sell.
Et les marques coûtent beaucoup d'argent à vendre.
There is utter continuity between George Bush on all of the major structural issues and Barack Obama.
Il y a une continuité parfaite sur toutes les questions structurelles essentielles entre George Bush et Barack Obama.
Whether that is the failure to regulate and prosecute the crimes on Wall Street.
Que ce soit l'échec de réguler et de poursuivre en justice les crimes commis à Wall Street.
The expansion of the imperial wars and proxy wars in the Middle East.
Que la croissance aussi, l'expansion des guerres impériales ou des guerres de proximité au Proche-Orient.
The inability to respond to the chronic underemployment and unemployment.
L'incapacité à répondre au chômage et au sous-emploi chronique de nos sociétés.
Or the foreclosure and bank repossessions of over 6 million American homes.
Et aussi les prêts immobiliers non honorés et les expulsions qui touchent plus de 6 millions de foyers américains.
And finally the assault on civil liberties.
Et enfin vient l'assaut contre les libertés publiques.
Which is worse under Barack Obama than George Bush.
Qui est pire encore sous Barack Obama que ça ne l'était sous George Bush.
Mais Chris, en 2008, l'élection de Barack Obama avait suscité un enthousiasme formidable aux États-Unis et dans le monde. Il y a un mot qui a presque disparu 4 ans après, c'est Obamania.
Yeah, that's what brands do.
Oui, c'est ce que font les marques.
They make people confuse a brand with an experience.
Et ils font que les gens confondent une marque avec une expérience.
Every major campaign promise that Barack Obama made, he has broken.
Barack Obama a failli à chacune de ses principales promesses de campagne.
And that's why there's such disillusionment.
Et c'est pour ça qu'il y a un tel sentiment de désillusion aujourd'hui.
Obama, 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 Obama.
Si je comprends bien, Chris, vous n'attendez absolument rien de ces élections. Pour vous, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
The problem is that the personal narratives of the candidate, which are the focus of the political campaigns, are irrelevant.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, tout le storytelling qui est fait autour des personnages, des candidats, autour duquel tourne toute la campagne politique, n'a pas de sens.
It's political theater.
C'est du théâtre politique.
Because there are no limits or impediments anymore on the rapacious, predatory forces of capital is corporate capitalism, they will push and push and push until there is a backlash.
Comme il n'y a aucune limite à l'appétit rapace et aux tentations prédatrices du capitalisme en place, il ne cessera d'aller de l'avant tant qu'il n'y aura pas un contre-coup qui un jour apparaîtra.
Quelles sont les pistes, Chris ? Là, on a un mouvement en France qui s'appelle Roosevelt 2012 et qui dit qu'il faut s'inspirer de la politique de Roosevelt pour la France. En France, on aime beaucoup des auteurs comme Krugman, comme Stiglitz. Est-ce que vous voyez des pistes de ce côté-là ? Est-ce qu'il faut copier Roosevelt ? Est-ce qu'il faut suivre Krugman ? Est-ce qu'il faut suivre Stiglitz ?
When I talk about responding rationally, which is what Krugman writes, what you're really talking about is the creation of some kind of a new deal.
Mais quand je dis de parler, répondre rationnellement à ces questions-là, et c'est un peu ce que fait Krugman dans son livre, c'est vraiment faire un nouveau New Deal.
But the New Deal only came because we had powerful unions and radical and populist movements that pushed the liberal establishment to respond.
Mais le New Deal n'a pu avoir lieu que parce qu'il y avait un mouvement social et aussi une élite radicale qui poussait le pouvoir établi au changement.
In the United States, those movements have been destroyed.
Aux États-Unis, simplement, ces mouvements-là ont été détruits.
And the liberal establishment is a faux liberalism.
Et l'établissement de gauche n'a de gauche que le nom.
It's a Clinton or Obama who speaks in that traditional feel your pain language and yet assiduously serves the interests of the corporate state.
C'est vraiment ce travers qu'ont à la fois Clinton et à la fois Obama de parler avec des phrases qui vous disent je sens votre douleur et qui en même temps prennent des mesures qui vont exactement dans le sens des grandes entreprises.
The problem with Stiglitz and Krugman.
Le problème simplement avec Stiglitz et Krugman
is that they want to get us back to where we were.
C'est qu'ils veulent nous ramener là où on était.
And we can't go back to where we were if we're going to save the ecosystem.
Et on ne pourra pas retourner là d'où on vient si on veut garder le même écosystème.
Nor is it possible given the decline of fossil fuel and natural resources.
Et pas plus qu'il n'est possible justement ne serait-ce que pour la question des carburants fossiles et des ressources.
To continue to build an economy that is based on limitless expansion.
C'est-à-dire de construire une économie qui repose sur des bases d'une expansion, d'une croissance sans limite.
And all of the mechanisms that are now being used to restart that system.
Et tous les mécanismes qui sont essayés d'être utilisés aujourd'hui pour faire redémarrer ce système-là.
The exploitation of dirty energy sources like shale or tar sands, for instance.
Par exemple, l'utilisation de sources d'énergie polluantes comme le sont les gaz de schiste et les sables bitumineux.
The drilling in the Arctic after 40% of the summer sea ice melts.
Ou bien encore, la volonté d'aller faire des forages dans les pôles alors que la calotte glaciaire fond.
Is an attempt to extract profit from the death throes of the planet.
Tout ça, c'est une tentative de vouloir gagner du profit alors que la planète est dans le couloir de la mort.
And because we are attempting to use massive debt as an engine to restart the economy.
Et en plus, comme on est en train d'essayer d'utiliser une dette massive comme seul moteur pour relancer l'économie.
It requires that expansion continue or that debt can't be serviced.
Du coup, ça rend obligatoire que cette expansion, cette croissance continue, sinon la dette ne sera jamais réglée.
So, as much as I like Stiglitz and Krugman in terms of their analysis.
Donc autant j'aime Krugman et Stiglitz pour leur analyse.
I feel that they have not grasped that we must radically reconfigure our relationship to both the planet and amongst ourselves if we are to sustain the human species.
Je ne pense pas qu'ils aient tous les deux saisi l'importance des changements qui sont nécessaires dans notre, ne serait-ce que notre repenser notre relation à la planète et aussi nos relations entre nous.
And finally, Stiglitz and Krugman are making appeals to formal mechanisms of power that because they are controlled by corporations will never respond.
Et enfin, Stiglitz et Krugman font appel à des mécanismes d'intervention sur les choses qui, parce qu'elles reposent sur l'ancien système et les intérêts économiques privés, seront sans réponse.
We have to wrest power back from corporate control.
Il faut reprendre le pouvoir aux entreprises.
Which means building mass movements.
C'est-à-dire construire des mouvements de masse.
I'm not naive enough to tell you it will work.
Je ne suis pas assez naïf pour vous dire comment ça va marcher.
Ok, qu'est-ce que vous allez voter le 6 novembre ? Alors, vous restez couché ce jour-là ?
No, no, I'm voting for the Green Party.
Non, je vais voter pour le Parti Vert.
Donc vous avez...
And I voted for Nader in 2008.
Et en 2008, j'avais voté pour Ralph Nader. Right.
Donc c'est vous qui avez fait passer Bush à l'époque.
Bush stole the election. We live in a banana republic.
Bush a volé les élections et nous vivons dans une république bananière.
OK. Merci beaucoup, Chris Hedges.
Bon, merci à vous. OK, au revoir.
Au revoir.
Dernière phrase du livre de Chris Hedges. Même si l'humanité plonge dans les ténèbres, l'amour survivra et dans les décombres, s'il le faut, triomphera. C'est à peu près la seule phrase vraiment optimiste de ce livre que je vous conseille, La mort de l'élite progressiste. C'est aux éditions Luxe. Très stimulante lecture. Et puis le bouquin aussi d'Eli Zareski, Left Essay sur l'autre gauche aux États-Unis. C'est aux éditions du Seuil. Le traducteur, vous l'avez reconnu, c'est le talentueux Guy Vanquetil. À noter, jeudi à 20h, la rumeur, nos amis de la rumeur, seront à l'Olympia. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Et on y attend vos commentaires ainsi que sur le site tabac.org, la-bas.org, même jeu, vous pouvez écouter et écrire des commentaires. Puis aussi la page Facebook de l'émission. Defar Guéride et Jean-Philippe Jeanne étaient à la technique aujourd'hui. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulteau et Marion Dupas. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler de l'assurance d'essai RassureCap Solutions.
Remarié à 40 ans, un nouveau papa à 46 ans, c'était pas prévu. Alors j'ai voulu que toute la famille soit à l'abri. Du coup, à la naissance de Paul, j'ai augmenté le capital de mon assurance d'essai.
Avec le contrat RassureCap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital de 5000 euros en cas d'événement familial comme une naissance, jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat, et ce, sans nouvelle formalité médicale. Maïf, assureur militant. Le contrat RassureCap Solutions est conçu et géré par Parnasse Maïf, filiale assurance vie de la Maïf.
Être utile à Paul, cuisinier, c'est lui donner de la visibilité sur ses dépenses d'énergie.
Moi, c'est Paul, et dans mon resto, c'est dur de prévoir. Un soir, j'ai 30 couverts, un soir 50. Heureusement, côté énergie, c'est différent. Avec la nouvelle offre de marché de GDF Suez Énergie France, l'électricité et le gaz naturel sont à prix fixe pendant 3 ans, avec en plus une remise équivalent à 10% sur mes abonnements.
Informations et conditions au 0811 01 3000, appel non surtaxé et sur notre site internet. GDF Suez Énergie France, être utile aux hommes. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Alors Gabriel, t'as pris une décision pour ton futur job ?
Ouais, j'ai choisi une entreprise sociale et solidaire.
Enfin, tu veux plus être ingénieur ?
Bah...
Et créer le smartphone du prochain millénaire ?
Bah si, justement.
On n'imagine pas tous les emplois qui composent l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi le gouvernement veut lui donner aujourd'hui tous les moyens de réussir et créer ainsi les emplois de demain. Plus d'informations sur le site économie-sociale-solidaire.gouv.fr.
Économie sociale et solidaire. L'État se mobilise pour une économie qui bénéficie à tous.
Ceci est un message du ministère délégué chargé de l'économie sociale et solidaire.
16h et une petite minute sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Les infos, Delphine Simon. Salut!
Le manque de compétitivité, c'est le défi majeur de l'économie française. C'est le Fonds monétaire international qui le dit dans un rapport cet après-midi. Le gouvernement français, dit le FMI, a une opportunité unique de réformer le marché du travail. Louis Gallois a remis ce matin son rapport pour améliorer la compétitivité. L'ancien patron de ADS qui préconise notamment une baisse des cotisations des entreprises. Le gouvernement se réunira demain en séminaire. Il devrait annoncer des mesures dans la foulée, des décisions fortes, promet François Hollande, mais il n'est pas question de reprendre la proposition du rapport sur les gaz de schiste. Matignon vient de le faire savoir. Grève aujourd'hui dans les laboratoires d'analyse médicale. Le syndicat des biologistes dénonce une menace grave sur l'avenir des structures de proximité. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale prévoit en effet une nouvelle baisse des tarifs de la biologie médicale. Explication du docteur Georges Haïm, le président de l'association des biologistes parisiens. Il est au micro de Cécilia Arbonnat.
On a un tissu de laboratoire de proximité, un tissu dense, avec des examens de biologie médicale. Donc tout ça va disparaître, parce que nous avons subi déjà 6 baisses consécutives depuis 2006 de nomenclature. Et en 2013, on nous promet une 7e baisse. Et évidemment, nos entreprises, parce que nous sommes des entreprises quand même, nous sommes obligés de gérer nos labos comme des entreprises, ne supporteront pas ça. Il n'y aura plus d'urgence parce que le tube va aller à 50, 60 km du lieu du prélèvement et tous les laboratoires deviendront des centres de prélèvement. Le maillage des labos comme il est actuellement n'existera plus.
L'UMP vent debout contre le mariage gay. Son secrétaire général Jean-François Copé demande le report du texte en Conseil des ministres. Il propose des états généraux de la famille. En face, des associations de défense des homosexuels appellent à résister aux pressions religieuses. À Lourdes, samedi, le cardinal André 23 a demandé aux chrétiens de saisir leurs élus. L'inter-LGBT, l'une des principales associations homosexuelles, appelle à des rassemblements mercredi. Il avait contribué au retour de Balenciaga au premier plan en habillant des actrices devenues des égérie, Nicole Kidman ou Charlotte Gainsbourg. Le créateur Nicolas Guéquière vient d'annoncer son départ de la maison de couture. Il a 41 ans. On termine par la belle histoire du jour. Un bébé né hier dans le RER, c'est paraît-il rarissime. La maman qui habite Cergy dans le Val-d'Oise a pris le train à l'aube dimanche pour accoucher dans une clinique à Paris. Mais le bébé ne lui a pas laissé le temps. Le conducteur du RER a donc fait arrêter le train dans une gare, évacuer les voyageurs et monter le chauffage dans la rame avant d'aider le papa un peu paniqué. Résultat, le bébé et la maman vont bien et le petit garçon, un enfant SNCF, selon son papa, vient même de gagner un pass Navigo jusqu'à ses 18 ans.
Cette semaine dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Benjamin Biolay.
Mais bordel, j'ai fait le plus dur. Autant tenter un salto avant d'échouer au pied du mur.
Miscope.
Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune.
Et Polissa.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Excusez-moi, mais il n'y a personne pour leur dire d'arrêter, là.
Oui, non.
Attends. Si ça continue, ça finira jamais, hein.
Oui, enfin, en tout cas, il paraît que les informations, c'est pas vrai.
Et ils inventent tout ça juste pour qu'on écoute.
Alors ?
Et vous, vous en pensez quoi ?
France Inter, la voix est libre.
Il est 16h05 sur France Inter, c'est l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Delphine Simon. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Ben oui, il pleut sur Paris, c'est bien sombre, mais ça fait rien. Il y a la musique avec nous. Alors je signale d'ailleurs que nous proposons, enfin nous, c'est-à-dire Radio France et France Musique, un concert gratuit tout à l'heure, le concert de Plaisir d'amour. Il faut être donc devant la porte B à 18h30. Vous savez, quand regardez la maison de la radio avec la scène dans le dos, c'est sur la gauche. Et là, il y aura, ce sera un magnifique enchaînement de virtuoses et de belles pièces à 19h jusqu'à 21h. Emmanuel Cesson à la harpe, qui est soliste de l'orchestre de l'opéra, Guillaume Coppola au piano, magnifique instrumentiste aussi, Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel, violoncelle et piano qu'on ne présente plus, et le quatuor Ardeo, quatre jeunes femmes qui brûlent pour nous et pour la musique. Ardeo, ça veut dire je brûle tout simplement. Donc rendez-vous si vous voulez bien tout à l'heure pour les Parisiens et ceux de la région à partir de 18h30, porte B de la maison de Radio France, un concert de 2h à partir de 19h. C'est enregistré, ça passera samedi d'après. Et le clou de la saison aussi pour l'Orchestre National, c'est la suite incroyable, c'est l'intégrale des symphonies de Ludwig van Beethoven, avec de temps en temps des œuvres contemporaines aussi, de Zavaro, de Waxman, de El Khoury, et tout ça. Et c'est au Théâtre des Champs-Élysées. Alors par exemple, ce soir, il y a la deuxième symphonie et la sixième dite pastorale, avec le fameux orage, et puis de Béchara El Khoury, Espace Fragmentation, un poème symphonique. Ça, c'est ce soir, le 5. Et le jeudi 8 novembre, toujours au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, la 4e symphonie de Beethoven, et puis la fameuse, la 5e, une pièce de Guillaume Connaisson. Alors, ce concert, on vous le propose, c'est-à-dire l'Orchestre National, et puis nous-mêmes France Inter. Si vous appelez un numéro que je vais donner très très rapidement, vous pourrez, non pas celui de France Inter, attention, ne le faites pas tout de suite, eh bien, vous pourrez aller écouter ce concert. Attention, pas ce soir, ça n'est pas gratuit. Ce soir, c'est payant, mais c'est magnifique quand même. Alors voici le numéro pour entendre le concert du jeudi 8, avec la 4e de Beethoven et la 5e, 01 56 40 36 62. Je répète, 01 56 40 36 62, 50 places offertes par la maison pour le concert de jeudi le 8 à 20h au TCE, comme on dit, au Théâtre des Champs-Élysées. Ben voici justement, par l'Orchestre National de France, dirigé par son chef Daniele Gatti, le final de la 4e symphonie programmée jeudi.